Le néopropriétarisme, l'opacité patrimoniale et la concurrence fiscale. Le refus néopropriétariste de la transparence patrimoniale s'appuie sur un régime institutionnel et légal spécifique, la libre circulation des capitaux, doublée de l'absence de tout système commun d'enregistrement et d'imposition de la propriété. Au XIXe siècle, le propriétarisme s'est longtemps appuyé sur le suffrage censitaire. Seuls les propriétaires les plus aisés disposaient du droit de vote, si bien que le risque d'une redistribution des biens était fort limité. En ces débuts de XXIe siècle, personne ne propose d'en revenir explicitement au vote censitaire. D'une certaine façon, le régime légal néopropriétariste établi au niveau international complète les protections constitutionnelles et tient lieu de système censitaire de substitution. Le refus de la transparence sur les propriétés s'appuie également parfois sur l'idée selon laquelle ces informations pourraient être mal utilisées par des gouvernements dictatoriaux. Cet argument paraît toutefois peu convaincant s'agissant des États européens. Ces derniers pratiquent depuis longtemps en leur sein les transmissions automatiques d'informations bancaires à leurs administrations fiscales, qui ont établi une réputation de neutralité, tout cela dans le cadre de systèmes d'État de droit dont l'indépendance n'est contestée par personne. L'argument fait penser à celui de Montesquieu, heureux propriétaire de la charge fort lucrative de président du Parlement de Bordeaux et qui militait pour le maintien des privilèges juridictionnels de la noblesse, en faisant valoir qu'une trop forte centralisation de la justice mènerait inévitablement au despotisme. Un argument potentiellement plus convaincant, et qui joue d'ailleurs un rôle central dans le refus d'une fiscalité commune en Europe, et que les systèmes fiscaux européens seraient déjà trop lourds et que seul le maintien d'une concurrence fiscale acharnée entre États permettrait d'éviter qu'ils ne grossissent sans limite. Outre son caractère antidémocratique, cet argument pose de multiples difficultés. Tout d'abord, il n'est pas du tout certain que les Européens se mettraient à voter des hausses fiscales sans limite s'ils pouvaient adopter des impôts communs dans le cadre d'une assemblée démocratique commune. Une hypothèse au moins aussi probable est qu'ils voteraient d'autres impôts, par exemple plus lourds sur les hauts revenus et les hauts patrimoines européens, afin d'alléger ceux pesant sur les classes modestes et moyennes, comme les taxes indirectes ou les prélèvements sur les salaires et les retraites. Rappelons par ailleurs que ces mêmes États européens ont eu suffisamment confiance entre eux pour mettre en place une monnaie commune et une puissante banque centrale européenne compétente pour décider à la majorité simple de créer des milliers de milliards d'euros, tout cela avec un contrôle démocratique minimal. Dans ces conditions, le refus de la transparence patrimoniale et d'impôts démocratiques communs paraît d'autant plus dangereux qu'il implique aussi que la BCE elle-même se retrouve à devoir mener sa politique monétaire sur une base hasardeuse, faute d'informations de qualité suffisante sur les patrimoines européens, leur répartition et leur évolution. On notera également que les multiples annonces faites dans divers sommets internationaux, en particulier dans le cadre du G8 et du G20, à la suite de la crise financière de 2008, concernant la lutte contre les paradis fiscaux et l'opacité financière, auraient dû en principe permettre d'avancer dans cette direction. Certaines mesures ont été prises, comme la loi dite FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, adoptée par les États-Unis en 2010, et obligeant en principe les institutions financières du monde entier à transmettre à leur administration fiscale toutes les informations dont elles disposent sur les comptes bancaires et portefeuilles financiers de leurs ressortissants. En pratique, ces mesures restent très incomplètes, et aucune véritable tentative de constituer un cadastre financier public en lieu et place des dépositaires privés n'a eu lieu. Ces épisodes ont au moins permis de montrer que des sanctions adéquates, comme la menace de retirer aux banques suisses la licence leur permettant d'opérer aux États-Unis, étaient une condition évidente pour espérer faire des progrès, et en l'occurrence, pour atténuer certains des abus les plus criants. Malheureusement, la réalité est que sur ces questions, l'Europe a brillé davantage par des déclarations d'intention que par des actions réelles. Cela s'explique notamment parce que toutes les décisions en matière fiscale sont bloquées par la règle de l'unanimité. Au cours des dernières années, les scandales financiers et fiscaux se sont multipliés en Europe. Il s'agit d'abord du scandale dit LuxLeaks, Luxembourg Leaks, révélé par un consortium international de journalistes en novembre 2014, au moment même où Jean-Claude Juncker, prenait ses fonctions comme président de la Commission européenne. Les documents, qui portaient notamment sur la période 2000-2012, montraient comment le gouvernement luxembourgeois avait pratiqué à grande échelle un système d'accords confidentiels entreprise par entreprise, les récris fiscaux, permettant à des grandes compagnies de négocier en toute opacité des taux d'imposition inférieurs aux taux officiels, pourtant déjà fort réduits au Luxembourg. Or, il se trouve que le premier ministre du Luxembourg entre 1995 et 2013 n'était autre que Jean-Claude Juncker, période au cours de laquelle il cumulait également ses fonctions avec celles de ministre des Finances du Grand-Duché et de président de l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances de la zone euro. Personne ne fut vraiment surpris d'apprendre que le Luxembourg pratiquait l'évasion fiscale, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché le Parti populaire européen, l'Alliance des partis chrétiens-démocrates et de centre-droit, de désigner Juncker comme candidat à la présidence de la Commission. Mais l'ampleur prise par ces pratiques surprit. Dans le chapitre précédent, j'ai noté les étonnantes pratiques de l'administration fiscale chinoise, qui est supposée appliquer un barème fiscal précis pour son impôt sur le revenu, avec des taux et des tranches, mais qui ne laisse aucune trace écrite précise permettant de s'assurer que les règles ont bien été appliquées. À dire vrai, les pratiques luxembourgeoises paraissent peu différentes. Acculé, Juncker reconnut les faits. Il expliqua en substance que ces pratiques étaient certes peu satisfaisantes sur le plan moral, mais se situaient dans un cadre parfaitement légal du point de vue du droit fiscal de son pays. Dans plusieurs interviews dans la presse européenne, il se justifia en expliquant que le Luxembourg avait été durement touché par la désindustrialisation à partir des années 1980-1990, chose, à dire vrai, assez commune en Europe, et qu'il lui avait fallu trouver une nouvelle stratégie de développement pour son pays, s'appuyant in fine sur le secteur bancaire, le dumping fiscal, l'opacité financière et le siphonnage des recettes fiscales des voisins. Il promit cependant que tout cela ne se reproduirait plus, et les principales forces politiques au Parlement européen, non seulement son propre parti, celui du centre-droit, mais également les libéraux et le Parti socialiste européen, regroupant les partis sociaux-démocrates et du centre-gauche, choisirent de lui renouveler leur confiance. D'autres scandales révélés par des consortiums de journalistes marquèrent les années suivantes, comme les Swiss Leaks en 2015 et les Panama Papers en 2016-2017, et démontrèrent l'ampleur de l'utilisation des paradis fiscaux et des pratiques opaques. Ces révélations ont au moins eu un mérite, celui d'établir l'étendue des détournements, y compris dans des pays réputés efficaces dans leur administration fiscale, comme la Norvège. En utilisant les données issues des Swiss Leaks et des Panama Papers, en les appariant avec les déclarations fiscales norvégiennes, exceptionnellement ouvertes dans le cadre de cette étude, et en exploitant de surcroît des données issues de contrôles fiscaux aléatoires, des chercheurs ont ainsi pu montrer que l'évasion fiscale en Norvège était négligeable pour les patrimoines faibles et moyens, mais atteignait en moyenne près de 30% des impôts dus au niveau des 0,01% des patrimoines les plus importants. Au final, il est difficile de savoir quel a été l'impact de ces différentes affaires sur l'opinion européenne, et en particulier de l'affaire Juncker, président de la plus haute instance politique de l'Union européenne de 2014 à 2019. Ce qui est certain, c'est qu'aucune décision ne fut prise entre 2014 et 2019 pour développer un cadastre financier public, mettre en place des impôts européens unifiés sur les contribuables les plus mobiles, et plus généralement, éviter que ce type de scandale ne se reproduise. On peut raisonnablement penser que cette séquence a surtout donné l'impression que la lutte pour la justice fiscale et l'imposition accrue des acteurs économiques dominants n'était pas véritablement la priorité de l'Union européenne. Cette trajectoire me semble dangereuse, car elle ne peut que nourrir un profond sentiment anti-européen parmi les classes moyennes et populaires et les pousser vers les voies du repli nationaliste et identitaire qui est lui-même sans issue positive. De la persistance de l'hyperconcentration patrimoniale. Revenons-en à la mesure et à l'évolution de la concentration de la propriété. Ne disposant pas encore d'un cadastre financier public ou de déclarations de patrimoine pré-remplies par les institutions financières, nous devons nous contenter de sources beaucoup plus incomplètes. La meilleure solution consiste à combiner les enquêtes auprès des ménages avec les données fiscales provenant à la fois des déclarations de revenus et des déclarations de succession. Les évolutions de la part du décile et centile supérieur dans le total des propriétés privées présentées sur les graphiques 13.8 et 13.9 pour les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont issues de ces méthodes mixtes, enquêtes et données fiscales. Afin de tester la cohérence des résultats obtenus, nous avons également comparé les évolutions avec celles observées au sommet de la distribution dans le cadre des classements de fortune publiés par les magazines, et en particulier dans les listes mondiales de milliardaires publiées chaque année depuis 1987 par Forbes. En ce qui concerne les États-Unis, la méthode fondée sur les déclarations de revenus montre une progression très proche de celle observée dans Forbes, alors que la méthode fondée sur les données successorales présente une progression inférieure, tout en indiquant elle aussi une forte hausse de la concentration des patrimoines, comme d'ailleurs les enquêtes déclaratives, y compris en l'absence de toute correction. Cela semble s'expliquer par le fait que l'impôt successoral est moins bien contrôlé que l'impôt sur le revenu aux États-Unis depuis les années 1980-1990, et plus généralement parce que la méthode successorale, dite du multiplicateur de mortalité, perd de sa précision et de sa représentativité au fur et à mesure du temps et du vieillissement de la population. La méthode fondée sur les revenus, dite par capitalisation, souffre cependant elle aussi de multiples limitations, et les résultats obtenus ne sauraient être considérés comme parfaitement satisfaisants. De façon générale, ces deux méthodes, par le multiplicateur de mortalité et par capitalisation, constituent clairement un pis-aller. Il serait hautement préférable de disposer directement d'informations bancaires et fiscales sur les patrimoines des vivants, plutôt que d'essayer de les deviner à partir des patrimoines des morts ou des revenus produits par les patrimoines des vivants. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les données fiscales sur les revenus du capital sont devenues tellement pauvres et incomplètes depuis les années 1980-1990 qu'il faut se contenter de la méthode successorale, alors qu'il était possible, jusqu'aux années 1970, d'appliquer les deux méthodes et de constater la cohérence des résultats. Enfin, pour ce qui est de la France, les deux méthodes donnent des évolutions proches et globalement cohérentes avec celles des classements Forbes. Il faut toutefois souligner une dégradation spectaculaire de la qualité des données successorales produites par l'administration française au cours des dernières décennies, à tel point que l'on sait actuellement moins de choses sur les successions et leur répartition qu'il y a un siècle. Il est vrai que la situation est pire dans les pays qui ont supprimé leur impôt successoral et dans lesquels ces données ont totalement disparu. Au final, malgré ces difficultés, les tendances indiquées sur les graphiques mesurant l'évolution de la part du décile supérieur, graphique 13.8, et du centile supérieur, graphique 13.9, pour les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, au cours des dernières décennies, peuvent être considérées comme relativement cohérentes et fiables, tout du moins en première approximation. Pour les autres pays représentés, Chine, Russie, Inde, il n'existe ni données successorales ni données fiscales suffisamment détaillées sur les revenus du capital, et nous en sommes donc réduits à utiliser les classements Forbes pour corriger les données d'enquête portant sur le haut de la répartition. Les résultats obtenus entretiennent sans doute un certain rapport avec la réalité, mais il faut souligner à quel point il est peu satisfaisant de devoir utiliser une source aussi nébuleuse. Ces classements de fortune indiquent certes dans tous les pays des progressions spectaculaires au cours des dernières décennies, et ces progressions paraissent globalement cohérentes avec celles que nous mesurons avec les autres sources disponibles. On notera que les rythmes annuels de progression des plus hautes fortunes mondiales atteignent, d'après Forbes, des rythmes de l'ordre de 6-7% par an, en sus de l'inflation, entre 1987 et 2017, soit une croissance 3 à 4 fois plus rapide que le patrimoine moyen au niveau mondial, et environ 5 fois plus rapide que le revenu moyen. Voir tableau 13.1. Par définition, une telle divergence ne peut pas se prolonger indéfiniment, sauf à supposer que la part du patrimoine mondial allant aux milliardaires tendent progressivement vers 100%, ce qui n'est ni souhaitable ni réaliste. Il est probable qu'une réaction politique se fera sentir bien avant. Cet envol spectaculaire a pu être accéléré par le mouvement de privatisation de nombreux actifs publics qui a eu lieu entre 1987 et 2017, non seulement en Russie et en Chine, mais également dans les pays occidentaux et sur l'ensemble de la planète, auquel cas cette évolution pourrait s'infléchir à l'avenir, dans la mesure où il reste de moins en moins d'actifs à privatiser. L'imagination légale étant ce qu'elle est, il n'est pas sûr cependant qu'il faille se reposer sur cet espoir. Les données disponibles suggèrent en outre que le décrochage a été tout aussi fort au cours des deux sous-périodes, 1987-2002 et 2002-2017, malgré la crise financière, ce qui laisse à penser que des forces structurelles extrêmement puissantes sont en jeu. Il est possible que le fonctionnement des marchés financiers soit structurellement biaisé en faveur des portefeuilles les plus importants, qui parviennent à obtenir des rendements réels beaucoup plus élevés que les autres, avoisinant même les 8-10% par an pour les portefeuilles des plus importantes dotations universitaires états-uniennes au cours des dernières décennies. Tous les éléments disponibles suggèrent que les fortunes les plus importantes du monde ont également bénéficié de stratégies de contournement fiscal particulièrement avantageuses, leur permettant d'accroître l'écart avec les patrimoines moins élevés. Les concepts et les méthodes utilisées par les magazines pour établir ces classements de fortune sont cependant tellement flous et imprécis qu'il est totalement impossible d'utiliser une telle source pour répondre plus avant à ces questions. Que le débat mondial sur les inégalités se fonde pour partie sur de telles données, et parfois même que les administrations publiques se retrouvent à y faire appel, est symptomatique d'une forme de démission des États-Unis face à l'enregistrement et à la mesure des inégalités de patrimoine. On notera toutefois le début d'une certaine prise de conscience sur le besoin d'un réinvestissement public sur ces questions démocratiques essentielles, y compris aux États-Unis, où nous avons déjà noté que la montée des inégalités avait commencé à engendrer un mouvement en faveur d'une plus grande progressivité fiscale, qui s'est aussi accompagnée de demandes pour une meilleure transparence statistique. Résumons. Le retour d'une très forte concentration de la propriété, doublée d'une grande opacité financière, est l'une des caractéristiques majeures du régime inégalitaire néo-propriétariste mondial en ce début de XXIe siècle. De façon générale, si la déconcentration observée au XXe siècle a permis l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale, il n'en reste pas moins que la propriété n'a jamais cessé d'être très inégalement répartie, avec une part du patrimoine total insignifiante pour les 50% les plus pauvres. Voir graphique 13.10. La forte hausse de la part allant aux 10% les plus riches, notamment aux États-Unis, signifie un effritement graduel et inquiétant de la part allant au reste de la population. La part des 10% les plus riches dans le total des propriétés privées atteignait 89% en Europe, moyenne Royaume-Uni, France, Suède, en 1913, contre 1% pour les 50% les plus pauvres. 55% en Europe en 2018, contre 5% pour les 50% les plus pauvres, et 74% aux États-Unis en 2018, contre 2% pour les 50% les plus pauvres. L'absence de diffusion de la propriété est une question centrale pour le XXIe siècle et pourrait contribuer à miner la confiance que les classes moyennes et populaires accordent au système économique dans les pays riches comme dans les pays pauvres et émergents.